Bonsoir à vous tous, merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui. Une annonce pour vous signaler la rencontre littéraire. Elle débute à l'instant à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invitée du jour, à savoir Sophie Fontanelle, qui a déserté son bureau, le magazine Elle en France, pour venir nous présenter son dernier livre paru chez Robert Laffont, Grandir. Sophie Fontanelle, bonjour.
Mais bonjour.
C'est un exploit de vous avoir aujourd'hui avec la grève oui. En France. C'est pour ça que vous êtes partie.
C'est-à-dire que je ne vais jamais au bureau, faut peut-être le préciser, mais bon, je l'ai déserté depuis bien longtemps.
Longtemps. En tout cas, vous y travaillez toujours. Vous
oui,
êtes
bien
toujours,
sûr, bien sûr.
Vous écrivez pour eux. En tout cas, vous leur faites une infidélité, je veux dire, avec ce livre qui paraît aujourd'hui chez Robert Laffont. Le titre, c'est Grandir. Grandir, car finalement, on grandit tous à un moment donné de notre vie quand des êtres proches nous quittent provisoirement ou définitivement.
On grandit tous, j'espère. Je pense qu'il y a des gens qui malheureusement ne grandissent jamais, qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai 48 ans, c'est-à-dire que j'ai passé la journée à dire que j'avais 48 ans. C'était la première fois de ma vie que je le dis aussi souvent. Et j'ai 48 ans et j'ai mis 48 ans à peu près à grandir de cette manière-là, c'est-à-dire en comprenant. À quel point on était libre dans la vie et à quel point on était en même temps lié aux autres.
Et tout ça par rapport à un sujet qui peut être angoissant, qui peut faire peur, la vieillesse de nos parents. Mais vous n'avez pas voulu nous en faire un sujet angoissant, vous avez plutôt voulu nous faire un sujet attachant, un sujet d'amour, je dirais, d'où le titre roman.
J'ai pas du tout voulu que ce soit angoissant pour une raison toute simple, c'est que... Je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas digéré cette angoisse. Et parce que, à quoi ça sert? Si vous voulez, un jour, en recevant le prix Nobel, Albert Camus a dit « J'écris le langage de tous pour le bien de tous ». Et moi, je suis définitivement quelqu'un de je suis du côté des choses... Je suis des côtés des bons sentiments, même si quelqu'un... a dit qu'on ne faisait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Je ne suis pas du tout d'accord, mais j'aime les livres où quand je les ai finis, quoi qu'il m'ait raconté, par exemple la Storia d'Elsa Morante, c'est très dur, mais quand vous l'avez fini, vous vous dites que vous voulez vivre et que ça vaut le coup de vivre. Et voilà, moi j'écris pour ça, pour que quand on a fini le livre, alors parfois j'écris des choses très drôles parce que ça c'est très 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 facile de donner aux gens du punch, mais parfois j'écris des choses plus graves. Mais mon but, c'est que quand c'est fini le livre, on ne se dise pas qu'on va se tirer une balle dans la tête. Parce que dans la littérature française, souvent, on se dit qu'on va se tirer une balle dans la tête quand on a fini le livre.
Mais alors justement, Sophie Fontanelle, pour vous, c'était écrire ce livre ou embrasser les hommes pour oublier le peuple des vieilles dames?
Oula, oula. Attendez, pour vous, c'était écrire ce livre ou embrasser... C'est-à-dire que dans le livre, je parle de... Il y a des manières de fuir quand on s'occupe d'une vieille maman. Il y a des manières de fuir qui sont de fuir en allant vivre sa vie, en dansant, en se saoulant de temps en temps. J'en suis incapable. J'écris un personnage dans Elle de Fonel qui fait tout ça, mais bien évidemment, je ne le fais pas moi-même. Et je ne bois que de l'eau, même pas pétillante. Et donc, quand j'ai eu cette maman qui est tombée un jour et qui s'est trouvée à être très dépendante, je n'ai pas fui, voyez. J'ai essayé de fuir, c'est-à-dire à pas trop m'occuper d'elle, mais en vrai, je n'ai pas fui. Et j'ai été angoissée, ça c'est sûr. J'ai été mal parce qu'on préfère que la vie soit drôle et légère et amusante. Mais en fait, je n'ai pas fui. J'ai affronté cette situation et j'ai essayé de donner de la gaieté à ma maman, de donner de lui montrer qu'on pouvait vivre âgé, bien. Et j'ai essayé surtout, moi, de recevoir du grand âge quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le temps, ça paraissait une évidence que les vieux, ils avaient une sagesse et que c'était formidable et qu'ils vous apportaient. Mais maintenant, les vieux, à côté de la magnifique jeunesse totalement trafiquée de Nicole Kidman, ont l'air beaucoup moins pop. Ben, en fait, ils ont quelque chose de fabuleux. Et quelque chose de fabuleux.
Alors, vous l'avez dit, recevoir également, c'est vous donner, vous recevez la sagesse. D'ailleurs, on ne peut que grandir quand la maman dit « Dis donc, tu ne vas pas te désintéresser de la vie juste quand ta mère en voit la valeur ».
Oui, parce qu'à un moment donné, comme je m'occupais de ma mère et que par ailleurs, j'ai un travail et puis que je travaille beaucoup, à un moment donné, bon, vous savez, je ne vis pas à mon travail, mais j'y vais, je travaille, j'ai des interviews, des machins, je reviens, et j'allais voir ma mère, et puis il fallait s'occuper. À partir du moment où vous mettez un pied chez la personne âgée, il faut évidemment tout de suite aller acheter de la soupline et des tas de trucs très très chiants. Bon, alors, c'était moi qui, dans ma vie, essaie d'éviter toutes ces corvées, ben, tout d'un coup, il fallait en faire plein. Le soir arrivait, et ma mère me disait, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, moi, j'en pouvais plus. Je disais, ben, ce soir, je dors, je regarde Arabesque et je me couche. Et là, elle a lutté, c'est merveilleux. Et tout d'un coup, elle a compris. Et j'ai compris que je ne pouvais pas lui dire ça. Car sinon, elle pensait qu'elle était un poids. Et je dis dans le livre, attention, ne la sous-estimons pas. Si elle sent qu'elle est un poids, elle va rassembler ses maigres pouvoirs et elle va mourir avant moi. Elle va s'empresser de mourir avant moi. C'est qu'elle ne veut pas être un poids. On oublie à quel point une personne âgée, elle est emmerdée de peser sur vous. Et donc, en fait, je me suis retrouvée avec cette mère qui me poussait à aller vivre, en fait. Alors qu'avant, j'avais l'impression, comme toutes les filles jeunes, qu'elle m'empêchait de vivre, ben là, elle me disait, mais merde, un jour, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on va te mettre sur un piédestal parce que t'as découvert avec moi le gâchis humain? Et ça me bouleverse parce que elle parle d'elle, bordel. Le gâchis humain, c'est elle. C'est le fait qu'elle est vieille et qu'elle va mourir. Et donc, c'est bouleversant. Enfin, si vous voulez, la vieillesse est tellement évidemment bouleversante que au début, je ne voulais même pas écrire le livre en me disant « mais c'est une lapalissade ». Maintenant, j'écris le livre et je me rends compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens, à part... Il y a Romain Gary qui a écrit là-dessus, Albert Cohen. Il y a très peu de gens qui ont écrit là-dessus. Puis aujourd'hui, ce n'est pas du tout glamour, vous voyez, d'écrire là-dessus. Voilà quoi.
Vous dites d'ailleurs que les rites, finalement, c'est le plus grand mensonge de notre société par rapport aux femmes.
Je dis que cette idée que les rides enlaidissent les femmes, c'est le plus grand mensonge qu'on puisse énoncer. Parce que moi, je trouve que ma mère, elle est plus belle, en fait, maintenant qu'avant. Et je trouve que ses visages ridés sont sublimes. Je suis effrayée de voir dans mon propre journal des filles qui ont mon âge. Donc j'ai 48 ans et sont déjà dans une lutte et ne supportent pas. En fait, comment voulez-vous que les gens acceptent ce qui va se passer après, puisque déjà à la moitié de leur vie, ils sont en panique totale à vouloir remblayer absolument avec du coton partout où ça se défait. Donc c'est effrayant, si vous voulez. Et on va vers quelque chose d'effrayant. Et quand je vois, quand ma mère elle est chez elle, mais quand je vais dans les centres où parfois elle tombe, elle se casse et on va la rafistoler dans des centres. Et quand je vois dans ces centres les vieilles dames, et je vois ces visages totalement ridés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le botox et tout ça. Et je me dis, mais mon Dieu, il leur reste ça, quoi. Elles s'appartiennent, elles sont... Qu'est-ce que ça va devenir, ces femmes qui ont des têtes de grenouilles quand elles auront 90 ans? Elles vont se voler leur vieillesse. Elles vont passer à côté d'un cadeau merveilleux que vous fait la vie, qui est qu'en fait, vous avez une carte géographique sur la gueule quand vous vieillissez. Bon, bah, voilà, c'est comme ça.
Et puis l'importance de la vieillesse, c'est très important pour les filles, car est-ce que finalement, c'est la vieillesse des mamans qui libère les filles? Et justement, le lâcher-prise est-il le dernier geste éducatif des parents vieillissants face à leurs enfants?
Et vous savez, ce qui est très difficile, c'est le ping-pong en fait qu'il faut faire. C'est-à-dire que votre mère, quand vous êtes une fille, un garçon, c'est peut-être pareil d'ailleurs, mais quand, à un moment donné, bon, elle est là, vous en avez besoin. Après, elle vous emmerde. Après, vous voulez qu'elle vous lâche. Après, vous la lâchez. Et après, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une ping-pong. Après, il faut aller la rechercher et il faut aller la retenir. Donc, c'est fantastique parce que tout ça, c'est de la vie. Mais il y a des gens qui peuvent pas le faire. Moi, je jette pas du tout la pierre aux gens qui peuvent pas le faire. Mais il y a des gens. Moi, j'ai des amis de mon âge qui me disent, mais comment tu fais, ma mère? Alors, elles ont des mères comme moi, très âgées, qui perdent un peu la tête, et elle me dit, ouais, ma mère, elle m'a dit que j'avais pas acheté les bonnes carottes, tu te rends compte comment elle me parle? Et je dis, mais lâche, quoi, lâche tout. Ta mère, elle a 90 ans, mais lâche, on s'en fout. Moi, je préfère courir la ville à acheter les bonnes carottes, qui sont jamais les bonnes, enfin, dans mon livre, c'est des olives. Un an, j'ai passé un an à acheter des olives, c'était jamais les bonnes olives. C'est pas celle de mon souvenir. Et un jour, j'ai dit à ma mère, mais maman, mais il n'y aura jamais les olives de ton souvenir. Alors, elle m'a regardée, elle a l'air de dire que vraiment, décidément, la vieillesse était une longue série de renoncements. Et elle m'a dit, bon, au bout d'un an, hein, prends-en de tout à fait ordinaire et je me débrouillerai. Voilà, c'est...
Alors, vous l'avez dit, c'est une partie de ping-pong avec ses parents vieillissants. Est-ce que c'est pour ça aussi que dans ce livre, ce sont chaque fois des courtes scènes? Il y a peu de chronologie. Parfois, ça peut surprendre le lecteur, comme s'il y avait une forme d'urgence par rapport à cette vie qu'on partage avec eux.
Alors, le livre, il est fait de courtes séquences parce que et dans le désordre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ma maman va bien et puis après elle va mal et regardez tout le chemin, parce que la vieillesse c'est pas ça. D'abord, la vieillesse c'est des moments où ça va mieux, c'est très 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 inégal hein, la descente de quelqu'un. Et en fait, c'est court parce que au moment où j'ai écrit, j'écrivais en fait des choses que j'avais racontées. Si vous voulez, chaque fois qu'il arrivait quelque chose, par exemple, ma mère me demande, est-ce que tu pries? Et puis je lui dis, je me dis, zut, elle a la foi maintenant. Alors je lui dis, oui, maman, quand on écrit, on prie. Et puis, bon, enfin, faut pas trop qu'elle regarde dans elle ce que j'écris, mais enfin, j'ai essayé de l'embrouiller. Et alors, je lui dis, quand on écrit, on prie. Et elle me dit, surtout, tu pries pas pour moi. Hein. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que tu vas pas me faire repérer. Hein. Et donc, en fait, ça, je le vivais. Ensuite, j'allais le raconter à 30 amis. Et pendant 1 an, 2 ans, je racontais aux amis. Et en fait, c'est pourquoi c'est court le livre, parce que c'était déjà devenu des historiettes un peu comme dans Brise de Nice. C'était déjà devenu des petites pastilles. C'est-à-dire que c'était tous ces moments où... Et c'est les amis, ils me disaient, mais écris-le, écris-le. Et en fait, moi, je voyais pas pourquoi l'écrire, puisque c'était écrit dans ma tête. Puisque moi, je pouvais le réciter aux gens. Et quelqu'un m'a dit, ouais, mais t'es égoïste, parce que ça ne concerne pas que ta mère. Ça concerne n'importe qui a une mère... Et ça concerne n'importe qui va comprendre que tout ce qu'il vit, ça a de la valeur, au lieu de penser que... Moi, j'avais l'impression que la vieillesse de ma maman, c'était comme une impolitesse, vous voyez, que j'étais un peu la fille de la loose, qui a une maman vieille, et qui était obligée de dire qu'elle avait 48 ans.
Alors, est-ce que, justement, c'est écrit comme si le lecteur était un confident? Est-ce qu'également, vous aviez besoin, vous expliquez à un moment donné que quand on donne beaucoup, on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Et justement, quand on est écrivain, qu'on écrit, qu'on est journaliste, est-ce que les mots, c'est une aide également de pouvoir les coucher sur papier, ces historiettes?
Mais c'est pas une aide, c'est une immense aide, c'est un salut. Je dis au début du livre, je réalise ces temps-ci que... aider quelqu'un, c'est avoir soi-même aussitôt besoin de secours. Donc moi j'ai eu besoin d'aide, j'ai eu l'aide des autres parce que m'ouvrant à cet amour pour ma maman et à cette aide, à cette entraide pour ma mère, je me suis ouverte aux autres. Donc enfin différemment d'avant, c'est-à-dire que j'ai vraiment accepté beaucoup plus de recevoir, sinon je serais capable de parler là devant des gens. Mais cette espèce de les mots en fait, c'est que j'ai la chance, moi, quand j'avais 9 ans, j'écrivais déjà, et j'ai la chance que j'ai le verbe, si vous voulez. Je peux le dire, et c'est absolument pas, je vous supplie de me croire, de la prétention de ma part, parce qu'en fait, je n'y peux rien. Un jour, je me souviens d'avoir entendu John Baez qui chantait un concert, et puis, alors, on s'est tous levés à la fin, chantait a cappella, et elle a dit, je n'y peux rien. Bon, c'était John Baez, génie, mais en fait, quand on a un don, en vrai, on n'y peut rien. Et pour la première fois, alors déjà quand j'écrivais des choses drôles, je me disais, quand on me disait vous faites des choses drôles, je considère que si j'ai ce don de faire rire, je dois faire rire. C'est-à-dire qu'on n'a pas ça, tout le monde ne l'a pas et on doit faire rire. Mais tout d'un coup, d'utiliser son écriture pour une noble cause, parce que c'est une noble cause de dire que la vieillesse de quelqu'un, c'est quelque chose de beau et de nourrissant. Ben voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire, mais moi je me rends compte, avoir l'écho qu'a le livre auprès des gens et avoir le nombre de réactions que j'ai, qu'en fait, les gens, ils ont ces mots en eux. La différence, c'est que moi, ces mots, je sais les faire sortir de moi.
Et nous les faire partager finalement pour aller vers l'essentiel, et l'essentiel de ce livre pourrait se résumer par « il faut aller vers l'inconnu ».
Oui, c'est-à-dire que je parle à un moment donné de l'inconnu dans ce livre parce que moi, je pense, tout le monde me disait, pendant longtemps, on me disait, mais pour aller vers un homme, il faut aller vers l'inconnu. Et puis, parce que j'ai, comme tout le monde, eu mes galères sentimentales. On me disait, mais oui, mais il faut aller vers l'inconnu, il faut aller vers l'inconnu. Et puis, quand j'ai vu ma maman se dégrader, et quand j'ai vu l'échange que j'ai pu avoir avec elle, les caresses qu'il a fallu prodiguer, les mots qu'il a fallu dire, des choses que je faisais pas du tout avec elle avant, j'ai réalisé que les gens racontaient n'importe quoi. Et qu'en fait, dans l'amour, on va pas dans l'inconnu, c'est une lapalissade, on va dans ce qu'on reconnaît. Et que c'est quand j'ai pu comprendre à quel point j'aimais ma mère, que j'ai pu enfin entrer dans l'amour en fait, et dans le contact. En fait, on reconnaît quelque chose qu'on savait même pas qu'on connaissait, et on le reconnaît, voilà.
Et dans l'urgence du temps, finalement, on vit toutes les émotions que vous partagez avec nous aujourd'hui à travers ce livre. S'il fallait une musique pour accompagner vos mots, est-ce qu'on mettrait la musique de Charles Aznavour, qui semble ne jamais tomber, Sophie Fontanelle?
Alors, Charles Aznavour, c'est important dans ma famille, et d'ailleurs, je raconte dans le livre, c'est important parce que ma mère est arménienne, et Charles Aznavour est né la même année qu'elle. Donc, elle a une vigilance un peu paranoïaque envers lui, parce que il va très bien, il chante, il fait des concerts, il est millionnaire et il sautille en chantant. Ça l'énerve puisqu'elle a un déambulateur, une chaise roulante. Et un jour, elle m'a dit, oui, mais lui, je lui dis, mais maman, parce que bon, les Arméniens, c'est une communauté, donc je le connais, Charles Aznavour. Donc un jour, il était passé, il y a 2 ans, je suis allée le voir et je suis revenue, je dis, maman, c'est formidable, tu sais, je l'ai vu, il a un corset, il est comme toi, il a du mal à marcher. Bon, voilà. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, oui, mais lui, le salaud, il sera immortel. Et c'est pour ça qu'elle était si heureuse que j'ai fait un livre, parce que tout d'un coup, elle s'est sentie un petit peu... D'ailleurs, elle m'a dit, est-ce que tu l'as envoyé à Charles Aznavour? Pour lui faire nananère, mais voilà.
Voilà, l'immortalité qui passera donc par votre livre Grandir, qui paraît aujourd'hui chez Robert Laffont. Un livre pour faire entendre les voix sur le départ, les voix du grand âge. Alors je vous propose, Sophie Fontanelle, pour terminer la voix de la lecture par un passage...
Que vous avez choisi.
Que j'ai choisi arbitrairement. Donc, je vous remercie. D'accord.
Tenez-moi ça. Bon, je vais vous lire un passage. C'est un petit peu que quand on s'occupe d'une personne âgée, on n'est pas enfermé. Et surtout, j'aurais pas du tout voulu faire un livre d'enfermement où je serais là uniquement en 8 clos, enfin en 2 clos, avec ma mère. Et en fait, le livre est truffé de ce que je vois du monde grâce à cette vieillesse qui est sous mes yeux. J'ai développé une sensibilité particulière aux personnes âgées. Est-ce une richesse? Est-ce qu'elle m'ouvre à des valeurs supplémentaires, cette nouvelle loupe à voir la fin? Si mon œil repère une cahotante dans la rue, eh bien c'en est fait. Plus rien ne peut m'en détourner. Ni la vitrine irrésistible, ni la star qui se matérialiserait là. Je suis comme ces parents qui, sachant les besoins fondamentaux de l'enfant, s'étonnent de l'enfant des autres, zigzagant entre les tables du café, pas encore couché à 2 heures du matin, énervé et blafard. Et comme ces gens, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est pas sa place ici. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame arrimée à son caddie, venue tard au marché, au remballage, récupérer sur le sol les fruits et les légumes rejetés? Elle se gîte. Elle se courbe à en jeter pour un melon éclaté. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette microscopique passante, doublée par une trottinette qui fuse? Et elle panique, elle pantelle sur sa canne, tandis qu'en retrait, la mère de l'enfant, celui à la trottinette, très pressée, elle crie « Ne va pas si vite, Ben, tu vas tomber !» Cette femme ne remarque pas ce que son enfant menace. Et qu'est-ce qu'elle fait là, celle couchée devant moi aux urgences, sans âge, tavelée, âpre, c'est la terre d'Islande, son visage. Elle n'a pas voulu déranger sa famille affairée et elle attend seule sur le brancard. Son sac est posé sur son pubis et elle le tend au personnel soignant qui la réceptionne en disant « Il y a tout dedans ». Et qu'est-ce qu'elle fait là, ma voisine, qu'à midi, en sortant de chez moi, je découvre par terre dans le hall, retournée comme une coccinelle, par un excès inapproprié, mais au fond déchirant de politesse, elle refuse d'admettre que son bras la fait souffrir. Je saurai plus tard qu'il est cassé. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette autre, dans le carrefour, bloquant 5 artères de la ville, le bus stoppé devant elle et le bus en face à face, dans une confrontation inexplicable et perdue d'avance. Et qu'est-ce qu'elle fait là, enfin, la super maquillée, antédiluvienne, au restaurant marocain de la rue Monsieur le Prince à Paris, toujours solitaire et la même, et qui parle à un ami imaginaire, entourée de clients, qui, peut-être, de leur vie, n'ont jamais vu l'autre, alors qu'elle, bon sang, elle le voit.
Voilà, merci Sophie Fontanelle.